Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la situation française puisque, bah, déjà pendant l'année 2025, je dois dire que nous avons parlé suffisamment peu de la France.
Tiens donc.
Oui, bah, parce que en même temps, il se passait pas grand-chose, il faut
Mais on
dire.
n'avait rien à dire avec Bayrou, il se passait rien.
Voilà, Bayrou est arrivé au poste en décembre 2024, donc il a fait en gros l'année 2025 jusqu'ici, et pour ainsi dire, il a rien fait. Alors c'était un peu reposant pour l'esprit, parce que finalement, parfois quand il se passe quelque chose en France, c'est pas toujours une bonne nouvelle, mais enfin, on continuait tout de même notre lente pente descendante, et donc il n'y avait pas grand-chose de particulier à commenter chaque semaine. Pour une fois, il y a quelque chose à commencer, c'est-à-dire que en vigueur depuis 1958, la Constitution de la Ve République prévoit par son article 49 alinéa 1 le vote de confiance du gouvernement, par lequel le gouvernement, donc à son initiative, demande un vote de confiance à l'Assemblée nationale. S'il n'obtient pas cette confiance d'un point de vue majoritaire, eh bien, il doit démissionner. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe sur cet article-là. D'habitude, c'est sur un 49-3 ou sur une motion de censure. On a vu ça pour le gouvernement Barnier. Donc voilà, c'est la première fois en 67 ans d'existence de la Ve République et donc de cet article 49 alinéa 1 qu'un gouvernement tombe là-dessus. Et donc voilà, on se retrouve sans gouvernement. Bayrou donc doit
Ça, c'est peut-être la
démissionner.
bonne nouvelle, non?
Oui, c'est peut-être finalement une bonne
Oui, c'est comme
nouvelle.
en Belgique où ils n'ont pas eu de gouvernement pendant 3 ans, ça n'a
Bien
jamais marché
sûr.
aussi bien, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et donc Bayrou nous a servi un discours de 45 minutes que j'ai suivi. Alors,
Ce garçon est héroïque. Suivre un discours de Bayrou, moi, alors.
en toute honnêteté, je n'aime pas du tout Bayrou et bien sûr, il est coupable de toute sa carrière en termes d'incompétence.
D'un excès de courage.
Voilà, mais je dois dire que pour une fois, il a dit quand même quelques vérités importantes avant de partir. Finalement, en fait, le ton du discours laissait bien sûr entendre qu'il connaissait déjà le résultat de ce vote. Et donc finalement, il a décidé d'adresser quelques vérités. Il s'est pas adressé d'ailleurs par la nature de son discours qu'à l'Assemblée nationale, mais je trouve que c'était un discours aussi un peu adressé à la nation, qui était bien sûr très à cheval sur la notion de la dette. Il a rappelé quelques vérités générales sur l'agrandissement de l'accroissement de notre dette par rapport à notre PIB, et puis l'accroissement des intérêts de la dette. Il a dit que voilà, aujourd'hui on était à plus de 60 milliards d'intérêts de la dette alors qu'on était en dessous des 50 en 2020, même en 2021, et que on allait progressivement que l'année prochaine ça allait être 75 milliards, et puis l'année d'après plus de 80 milliards, etc. Si on continuait sur cette voie-là.
Donc il faut rappeler, ça n'a aucune importance si l'ensemble de la dette était détenue en France, ça irait d'un certain nombre de Français qui payent les impôts à ceux
C'est
qui
vrai.
reçoivent. Mais là, il ne faut pas oublier qu'il y a 50% de cette dette qui est détenue par l'étranger, sans doute
60
plus,
même.
60. Donc ça veut dire que si c'est 60 milliards, il y en a 36 milliards qui filent et qui enlèvent du pouvoir d'achat, littéralement.
Oui, absolument. C'est-à-dire que
Donc
c'est. Ouais.
c'est pas rien, quoi.
Oui, tout à fait. C'est pas un transfert du gouvernement vers les
Autre chose.
détenteurs nationaux de la dette. Enfin,
Non.
du coup, 40% oui, mais 60% non. Et donc, ça veut dire que il a sorti cette notion de trappe à dette sans forcément la nommer. C'est-à-dire qu'il explique que chaque année, on produisait de manière supplémentaire 50 milliards dans notre économie, mais que on en dépense encore davantage dans le paiement des intérêts seuls de la dette. Et donc, ça veut dire que on perd littéralement plus qu'on ne produit et toute cette richesse-là, eh ben, on l'envoie justement à
Vous
l'extérieur.
croyez qu'il écoute l'Institut des libertés de temps en
Honnêtement,
temps?
quand j'ai regardé son discours, je me suis dit, mais est-ce qu'il nous regarde pas de temps en temps? Je me pose la
Parce que
question.
c'est des notions dont on a parlé
Ah oui.
depuis qu'on existe, littéralement.
Tout
Bon,
à fait. Donc voilà, un discours plein de vérité, mais
exit
aussi
Bayrou.
de, ouais, voilà, aussi plein de compromissions. C'est un constat d'échec. Bayrou termine sa carrière politique. Voilà, quelque part, enfin, en tout
Bayrou
cas.
termine sa carrière politique, vous savez. Sanguinetti disait qu'il était un type rigolo. Il disait qu'il y avait toujours un monde fou aux enterrements des hommes politiques parce que tout le monde voulait savoir si le type était vraiment
C'était
mort.
vraiment marrant, oui.
C'était vraiment mort
Oui.
parce que sinon ils reviennent toujours. Hein,
Alors
donc.
peut-être qu'il en a pas fini avec Pau, mais je pense que honnêtement au niveau national, là c'est fini. Là je vois pas vraiment comment il peut. Mais Peut-être que j'ai tort, hein, c'est une possibilité. Enfin bon, bref. Mais j'ai trouvé que c'était finalement quelque chose d'assez symbolique parce que cet homme incarne un peu la Ve République, ou en tout cas ce qu'elle est devenue. Il a plus de 40 ans de carrière politique, à chaque fois à essayer d'arriver dans tel ou tel mouvement. Au départ, c'était à l'UDF, et puis ensuite il a créé le MoDem. Enfin bref. Et un peu à droite, un peu à gauche, les deux en même temps, pile au milieu, ni l'un ni l'autre, enfin bref. Et
Vous savez ce qu'on disait autrefois en France? On disait faux et aimable comme un béarnais. Donc, je crois, j'espère qu'il n'y a pas trop de béarnais qui nous écoutent. C'était un truc que j'ai entendu quand j'étais dans le Béarn. Ça devait être les Basques qui disaient ça, mais
Sans doute, ouais.
donc,
Rivalité locale un peu.
peut-être les Gascons aussi. Donc, le Béarnais a la réputation d'être souple,
Ouais, bah c'est oui,
d'écouter les arguments des autres.
c'est un peu ça, Bayrou. Donc oui, il nous assène plein de vérités. D'ailleurs, il parle de la dette depuis 30 ans, hein. Déjà dans les années 90, il parlait de cette
Et en
notion-là.
fait, il votait tous les budgets.
Et voilà, mais il votait tous les budgets. Enfin bref. Et derrière, il a voulu absolument arriver à Matignon. Il est resté 9 mois. Et puis bah finalement, il s'est pas passé grand-chose, hein. Il a rien fait de particulièrement notable qui va nous
Et surtout,
sortir
il n'a pas. Ce qui m'est
de la panade.
extraordinaire avec tous ces hommes politiques, c'est que il parle de la façon dont il faut lever 40 milliards, 60 milliards, j'en sais rien.
Oui.
Mais il n'attaque jamais le problème de front des dépenses de l'État. C'est-à-dire qu'il parle des recettes.
Oui.
Mais les dépenses de l'État, c'est un sujet complètement intouchable. Et on ne ferait pas croire, ayant été dans les affaires toute ma vie, que si vous êtes dans une entreprise et que vous dites, bon, on va couper les frais généraux de 10%, tout le monde s'en fout. Personne ne remarque. Donc, couper les frais généraux de l'État français, toutes ces grandes associations, les subventions NGO, enfin, je sais pas, tous
Oui.
ces trucs-là, eh ben, ça ne doit pas être très difficile, mais aucun de ces hommes politiques n'en parle jamais.
Ouais.
C'est quand même étonnant. C'est ça qui me surprend le plus, c'est que à partir du moment où vous avez un État qui dépense autant que ça, vous vous dites, ben, comment dépense-t-il, où va-t-il? C'est comme l'histoire des, je m'en parle tout le temps, mais des 65 millions de cartes vitales français et des 72 millions de cartes vitales de l'ami Charles Pratt. Là. Ben, si vous voulez, on aurait pu lancer une commission d'enquête sur savoir pourquoi il y avait cette
Oui,
manque.
ça c'est un problème qu'on sait depuis au moins 5 ans maintenant, du coup.
Donc, il y a le pitch comme ça, mais on a l'impression
Ouais.
que les gens. Alors, la seule possibilité, c'est que les types qui sont au pouvoir ont mis dans toutes ces pompes à fric qui existent, pour prendre le pognon de l'État, leurs frères, leurs cousins,
Ouais.
leur maîtresse, je ne sais pas qui. Et donc, c'est là où ils placent.
Ouais, c'est une grande agence de recyclage.
C'est un grand enclave de recyclage de gars qui ont échoué en politique, quoi. Donc, par exemple, il avait été le patron du plan avant d'être nommé Premier
Oui, c'est
ministre.
vrai, commissaire au plan.
Commissaire au plan, mais à quoi ça sert un commissaire au plan?
Ouais.
Vous pouvez m'expliquer?
Oui, bah, bonne question. Effectivement, oui, il a
Eh
pour
bien,
le
je veux
coup.
ça d'avoir que ça doit coûter quelque
À
chose.
titre de haut commissaire au plan, il a coûté de l'argent aux contribuables et lui, en revanche, n'a pas contribué à grand-chose. Alors peut-être que sa contribution aurait été négative, donc finalement peut-être que vaut mieux que ça serve à rien plutôt
Je
que ça
sais que le
serve à quelque
budget
chose.
du plan, d'ailleurs, il était là, a doublé ou triplé, mais qu'est-ce qu'ils font?
C'est une bonne question.
Qu'est-ce qu'ils font,
Oui,
eux?
c'est une bonne question. Donc lui-même adresse effectivement quelques vérités, mais lui-même fait partie du problème aussi,
Ben
à
oui, parce
plusieurs
que
égards.
quand il
Donc
était au
bon.
plan, il devait avoir une voiture de fonction, trois
Ouais, bien sûr.
secrétaires, un salaire en plus de son truc. Enfin,
Oui. Le cumul des retraites
le cumul des
derrière, bon,
retraites derrière,
c'est.
ben, tout ça est tout à fait extraordinaire parce qu'aucun de ces gars-là ne fait aucun effort pour. Et pourtant, il y a des gens comme la petite Molinier là, qui fait du travail pour dire vous pouvez couper là, vous pouvez couper là. Tout le monde s'en
Oui.
fout. La
Oui.
seule idée, c'est comment vous allez prendre du pognon aux riches.
Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'aux 40 milliards, on les trouve en un quart d'heure sans grande difficulté.
Oh,
Et après, il y a des
ça,
choses plus fondamentales, peut-être sur lesquelles il faudrait une grande
vous
réflexion,
coupez.
mais il y a des trucs,
Mais j'ai vu une
franchement.
émission sur New York qui m'amusait. Tu parlais de New York, c'était des. Et il y avait le. Ils vont peut-être élire un maire socialiste à New York, un
Oui,
type qui
tout à
arrive du
fait.
Moyen-Orient,
Oui.
qui a l'air con comme une malle, etc. Et donc, il veut taxer les riches.
Ouais.
C'est une idée nouvelle, hein, que personne n'a jamais eu avant.
Non, non.
Le type qui avait en face de lui disait, vous savez, si la moitié des 120 plus gros riches de New York s'en vont parce que vous augmentez l'impôt, la moitié, ça fait baisser notre budget de 50%. Notre budget fiscal. C'est-à-dire que les gens comprennent pas que ces gens riches, ils payent déjà un maximum.
Oui.
ne serait-il donc, je suis sûr que dans le revenu, dans le, l'impôt sur le revenu en France, les deux tiers doivent être payés par 10% des gens, quoi. Oui. Même pas. Donc, il y a une espèce de truc. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est ce que Charles Pratt qui m'avait dit ça. Tiens, j'en parle aujourd'hui. Mais c'est qu'il avait dit, si, qu'est-ce que c'est la justice sociale pour les gens? On dit, ben, si vous gagnez 100, vous payez 10. Et si vous gagnez 1000, vous payez 100. Et Charles Trambat leur a dit, vous savez que c'est le flat tax.
Oui.
Eh ben, les Français trouvent le flat tax une très bonne idée.
C'est une très bonne idée. Enfin,
c'est une très bonne idée.
C'est la meilleure justice fiscale qui soit.
C'est le meilleur. D'abord, vous payez en fonction de vos revenus, puis pas trois fois plus. Il n'y a pas de raison de pénaliser le cas qui a plus bossé, quoi.
Ouais.
Eh bien, alors que tous les Français, les mêmes Français vont vous dire, non, non, il faut qu'il y ait la justice fiscale. Mais pour eux, c'est, vous payez là en pourcentage de vos revenus, quoi.
Ouais.
C'est marrant. Et donc, le Français a cette caractéristique extraordinaire des gens très intelligents. Il peut avoir deux idées contradictoires à la fois dans la tête.
Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est quand même bien, ça. Ça, c'est beaucoup à LFI, mais enfin, ailleurs
oui,
aussi.
Oui, oui. Ah bah, LFI, eux, ils sont en boucle actuellement sur la taxe Zucman. C'est-à-dire qu'ils voudraient que tous les patrimoines en France de plus de 100 millions d'euros soient taxés chaque année à hauteur de 2%, pas de ce qu'ils ont gagné, mais du patrimoine dans son entièreté. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que eux aussi, ils peuvent avoir des idées très contradictoires. Ils sont pas à une près. Hier, donc, il y avait le fameux Zucman qui était d'ailleurs sur le plateau de Quotidien pour expliquer que sa taxe, en fait, ne permettait pas, enfin, n'empêchait pas les riches d'être plus riches, puisque il se base, et d'ailleurs, il a pas tort là-dessus, sur le rendement moyen de la bourse. Très intéressant. Donc, il nous explique que, de manière générale, en tout cas, il a pris l'exemple de la bourse américaine. D'ailleurs, on aurait pu prendre d'autres exemples ou faire un mix, j'en sais rien. Enfin, il dit, bref, le rendement moyen de la bourse, c'est 10%. Si on leur prend 2% chaque année, ça fait 8%. Ok. D'ailleurs, au passage, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, bon. Soit. Le fait est que, si on accepte, dans l'idée, que, par conséquent, par la capitalisation, chaque année, on peut gagner 10%. Pourquoi ne pas faire notre système de retraite là-dessus aussi? C'est-à-dire que les types nous disent « Non, mais la bourse, c'est trop risqué, d'un côté, pour mettre nos fonds de pension là-dessus et pour changer de la répartition. Mais d'un autre côté, c'est un gain quasiment assuré pour ceux dont on prélève justement la richesse. » Là, quand même, il y a un double discours qui est pas tout à fait logique aussi.
Et puis en plus de ça, si vous voulez, c'est je ne sais pas si c'est constitutionnel, parce que là, vous vous attaquez directement au droit de propriété, quoi. C'est oui, pas oui. Les revenus, c'est pas.
Mmh. Oui, oui, il y a une possibilité que ce soit en plus de ça retoqué par le Conseil constitutionnel. Et puis, enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens, honnêtement.
Je ne crois pas qu'il y ait un exemple dans l'histoire, un seul, d'un déficit budgétaire qui a été réduit par une augmentation des impôts.
Mmh. Ouais, ce serait
faudra vérifier. Oui, mais je crois pas. Il faudra poser la question à nos amis des intelligences artificielles.
Oui, je demanderai à ChatGPT et à Grok.
Voyez, parce que bon, ça fait 50 ans que je sévis, ou 60. J'en ai vu des gars qui augmentaient les impôts. Mais j'en ai jamais vu augmenter les impôts et que ça amène un résultat de baisse. Mais ce qu'il y a d'étonnant, de baisse du déficit. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est comme ça n'a pas marché en général. Ils leur font plus. Vous savez, c'est comme le communisme. Si on avait tué 200 millions de personnes, ça marcherait, quoi. Le problème, c'est qu'on n'en a pas tué assez. Voilà.
Ouais, on n'a pas tué les bons, ou je ne sais pas.
On n'a pas tué les bons, enfin, on a raté tout un tas. Donc, c'est un peu le vrai problème. Et moi, je regarde ça, je me dis, mais ils sont quand même des fanatiques, quoi. C'est, donc, il n'y a rien à dire. C'est que si un homme politique propose une augmentation des impôts sur les riches, c'est que soit il est con, ce qui n'est pas impossible, soit c'est un menteur.
C'est pas impossible que ce soit les deux. Hein.
Oui, on peut être con et menteur aussi. Oui, j'en ai connu,
c'est vrai. On n'est pas obligé d'être aussi exclusif. Enfin bon, du coup, la question maintenant, c'est un petit peu qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue déjà institutionnel et puis ensuite, j'ai envie de dire, d'un point de vue économique. Déjà, donc, on est un peu devant un arbre de décision. Enfin, c'est surtout le président de la République qui l'est. Et la première possibilité, c'est déjà une absence de dissolution. Évidemment, on parle beaucoup de la dissolution, mais actuellement, d'après ce qui a été communiqué par l'Élysée, il semblerait qu'on ne soit pas devant un cas de dissolution. En tout cas, le président a dit par l'intermédiaire de l'Élysée qu'il allait s'atteler à nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines semaines, donc ça veut dire pas de dissolution.
Je me demande quel vieux cadavre ils vont sortir du placard, parce qu'entre Barnier et Bayrou,
On avait déjà des sacrés champions,
on
oui,
avait
c'est
quand même
sûr.
des gars qui traînaient là depuis longtemps. Alors,
Ouais.
qu'est-ce qu'il y a de plus ancien?
Qui a traîné depuis plus longtemps encore?
Attendez, il y a peut-être Bertrand.
Bertrand,
Bertrand, ça fait, il
oui.
est là, ça fait quand même pas mal de
Oui, ça
temps
fait
qu'il est
longtemps qu'il
là.
crapote, ouais.
Je ne sais pas, il y a Bertrand qui est peut-être un peu à gauche, donc il pourrait peut-être passer. Je sais pas qui y a encore de complètement inutile et qu'on a vu. Ségolène Royal, là,
Ségolène Royal, ouais,
je
vous
crois
avez
qu'elle
pas
est tout à
tort.
fait, elle est tout à fait
Ah bah elle,
compétente.
à chaque fois, elle dit je suis disponible pour Matignon,
Oui.
donc au moins on sait qu'elle est disponible.
Au moins dans Ségolène Royal, oui. Bon, il pourrait demander à Hollande.
Il pourrait demander à Hollande,
Ce
mais
serait un renversement assez drôle.
ce serait assez drôle de mettre un ancien président à cette place-là,
Alors que lui, il a été
alors
le
que
Premier
lui a été
ministre.
son propre ministre, effectivement, mais je pense que honnêtement,
Le ridicule tue, donc c'est
ouais.
pas celle-là. Je cherche des gars, si vous voulez, des espèces de baudruches qui traînent depuis toujours et qui.
Ah bah il y en a hein, Valérie Pécresse, vous avez dit Xavier Bertrand, on pourrait dire
Des gens qui n'ont aucun caractère et aucun charisme, si vous voulez, et qui sont là depuis toujours, on sait pas pourquoi les gens votent
ouais.
pour eux, quoi.
Il y a le nom de Sébastien Lecornu
C'était le ministre des
qui
Armées,
est,
celui-là,
oui
non?
voilà, bah il l'est toujours d'ailleurs.
Et toujours?
Mais lui il circule à chaque fois donc ce sera certainement pas lui. De toute façon en général les 10 premiers noms qui sortent c'est pas eux.
C'est pas eux.
Donc quelque part
Alors, on
on
m'a
peut être.
collé le nom du grand échalas, là, qui est, comment il s'appelle? Lombard.
Ah oui, alors Lombard est sorti aussi, mais du coup je pense que ce sera pas lui.
Et
Mais bon, c'est ouais, il me fait un peu peur
c'est un
Lombard.
mauvais mélange entre Fabius et Giscard, quoi. Ils sont
Oui, c'est un peu ça,
à peu
oui.
près aussi bien que les
Oui,
deux,
c'est vrai,
mais
c'est
avec
vrai.
un côté un peu répugnant, allez,
Oui,
je sais pas.
il me fait un peu peur,
Ouais, on se dit,
ce type-là.
il ne devait pas être le plus populaire de la classe. C'est pas celui qu'on choisissait en premier pour jouer au ballon chasseur.
Ouais, je pense pas, effectivement. Donc ouais, je ne sais pas qui ce sera, je ne sais pas de quel rang il sera issu d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas s'il va rechercher un ancien de LR ou alors peut-être il va essayer d'aller voir du côté du PS, j'en sais rien du tout. Enfin, ce que je note tout de même, c'est que comment dire, la manière de s'exprimer des chefs de partis politiques n'est pas la même qu'avant, puisque comme avant, ils n'avaient pas la possibilité de faire une dissolution, de toute façon, il fallait composer avec l'Assemblée telle qu'elle était. On ne pouvait pas faire autrement. Donc il fallait quand même trouver un gouvernement voilà, et attendre qu'on puisse dissoudre.
Ce que vous voulez dire, c'est donc que le Parlement actuel pourrait refuser d'introniser quelqu'un jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution.
Tout à fait. C'est,
Ils
moi,
peuvent.
je, voilà, ils peuvent. Je pense que
Et il faut
c'est.
combien de partis pour ça? Si le Rassemblement national plus les deux.
Il pourrait déjà obtenir des partis l'assurance que lors du vote de confiance, ils ne votent pas contre la confiance. Donc ça, par exemple, le Rassemblement national pourrait faire ça. D'ailleurs, ils ont fait ça lors des derniers pour les deux derniers gouvernements. Donc c'était on va dire un soutien sans participation directe. Il pourrait refaire ça. Il pourrait faire un axe PS, Renaissance et LR.
Ça suffit?
Je crois que ce serait pas loin de suffire. Je crois que ce serait pas loin de suffire. Peut-être qu'il faudrait rajouter les écolos là-dedans, j'en sais rien. Je pense qu'avec les écolos, ça suffirait. Mais ouais, il pourrait faire ça. Mais je ne sais pas s'ils y parviendront. Honnêtement, je ne sais pas si Macron va pouvoir trouver ce genre de compromis. Parce que le PS, ils ont l'air d'être prêts déjà à s'allier avec la France Insoumise en vue de nouvelles élections.
Ah oui, ça me ça y est, ils y reviennent?
Ouais, ils en reparlent, hein, ils disent encore une fois, il y a des formules récurrentes qui reviennent. C'est un peu saisonnier. Quand on entend certains termes, certaines phrases, on sait que ah, on se
Les élections
prépare à faire
arrivent.
à faire un
Moi,
petit accord électoral.
j'avais un beau-père qui vivait à Pau, que j'aimais beaucoup. quand il voyait des travaux municipaux commencer, il disait « Ah, les élections s'approchent
ah, !» bah, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Donc quand on entend de la part de classiques du PS des phrases comme « plutôt Hitler que le Front Populaire », des choses comme ça, c'est qu'il se prépare déjà à dire le danger principal, c'est le Rassemblement National. Il faut absolument empêcher une victoire du Rassemblement National. Donc je m'allie avec la France Insoumise. Quand bien même il y aurait des terroristes dedans, c'est pas très grave. Voilà, on entend non, ce genre de phrase.
Vous comprenez pas bien, parce que être un terroriste pour une bonne cause, c'est être un résistant.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il faut que vous fassiez la différence une fois pour toutes entre résistant et terroriste.
Bien sûr, bien sûr.
Si vos enfants sont tués par un résistant, c'est beaucoup moins grave que s'ils sont tués par un terroriste.
Non, bien sûr, bien sûr. Il faut même en être fier quelque part.
Il faut que vous vérifiez un petit peu la qualité de votre vocabulaire. Oui. Parce que résistant et terroriste, c'est pas pareil. Hein.
Effectivement, je suis pas encore bac plus 8 en France Insoumise, donc il faut que je me renseigne encore un peu. Mais oui, ils n'hésitent pas à soutenir des libérations comme Georges Abdallah, des types comme ça, qui sont tout à fait bienvenus dans mon salon. Donc, deuxième option, absence de d'accord de gouvernement et article 16. C'est-à-dire, au lieu de faire une dissolution, et bah, hop, vous savez quoi ?
C'est moi qui prends tout.
C'est moi qui prends tout. Donc, article 16, il n'a pas été actionné depuis le général de Gaulle.
Depuis la révolte des généraux. Là.
Depuis la révolte des généraux, absolument. C'était en 62. 61 même, ouais. Donc voilà, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre.
Rien de tout ça n'est le cas.
Rien de tout ça n'est le cas, mais après avec Macron, j'ai l'impression que...
Surtout avec le Conseil constitutionnel.
Oui, avec le Conseil constitutionnel, je n'ai aucun doute que ça passerait sans aucun problème. Donc ça, en tout cas, on en a parlé brièvement hier. Ça, c'est un peu votre scénario, pas de préférence, mais enfin, vous pensez que c'est peut-être le scénario le plus probable.
Le plus probable, c'est le plus probable. Et puis en plus, si vous pouvez nous amener à une guerre en même temps, je sais pas, avec la Russie, ce serait le pied.
Oui, en plus, il pourrait, à mon avis, y prendre sacrément goût à cet article 16. Hein.
Voilà, c'est qu'à ce moment-là, il pourrait être comme... Zelensky, là, si vous voulez, qui n'a pas été élu, enfin, qui a été élu pour 4-5 ans et qui est toujours là 3 ans après, quoi, après que son mandat soit terminé. Donc, quand le pays est dans une situation très difficile, est-ce bien raisonnable d'organiser des élections, quoi ?
Oui, c'est pas faux.
Je sens que vous avez un. Faire parler le peuple dans des moments où il n'est pas vraiment mûr.
Oui.
C'est l'amener à prendre des décisions qu'il va regretter après. Donc pour le bien du peuple, les élections...
Est-il jamais mûr, finalement, hein ? C'est une possibilité, peut-être.
C'est ce que disait ce brave Coluche. Si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'il les aurait interdites, mais...
Oui.
Il ne faut pas oublier ça.
je ne désespère jamais en
mais vous avez d'élections. Non, moi, je pense que... Mais je crois de moins en moins aux élections pour des hommes,
ouais.
Et de plus en plus aux élections sur des sujets précis, oui. Où on me demanderait mon avis, et je serais vaguement compétent.
Ouais.
Mais les élections des hommes, je suis arrivé à la conclusion que... La démocratie représentative, écoutez, si le monde est en train de nous apprendre quelque chose, c'est qu'aux États-Unis ça marche pas, en Allemagne ça marche pas, en France ça marche pas, en Angleterre ça marche pas,
oui.
En Espagne ça marche pas, donc partout la démocratie représentative ne marche plus. Donc c'est ça la nouvelle essentielle, c'est que la façon dont les gens gagnaient leur légitimité, qui était le vote... Eh ben, elle est plus convenable.
Oui.
C'est-à-dire qu'on amène au pouvoir des gens qui ne devraient pas y être.
Le vote amène de moins en moins de légitimité, effectivement.
Et donc, il y a la légalité formelle,
oui.
Mais il n'y a plus aucune légitimité. Et je crois que cette absence de légitimité, par exemple en Europe, Mme von der Leyen, mais quelle légitimité a-t-elle ?
C'est une vraie question. Et d'ailleurs, vous avez raison, c'est le cas dans la plupart des pays occidentaux. Alors, l'Italie, Giorgia Meloni reste assez populaire. Et dès que je vois passer des intentions de vote, elle est encore très élevée plus que les autres. Donc c'est chez eux, c'est assez stable. En Angleterre, on a bien vu, au Royaume-Uni, on a bien vu que Keir Starmer, était un recordman de rapidité en termes d'impopularité.
Les gens qui sont avec lui sont tous plus. plus incompétents les uns que les autres.
Ouais.
La ministre des Finances qui fait des quasi-fraudes fiscales, là, on ne va pas déconner. Quoi.
En France, on a réussi l'exploit de réélire Emmanuel Macron en 2022 et de le détester aussitôt. Finalement, on le détestait avant, on le redéteste après, on l'a élu entre les deux, c'est quand même assez formidable.
Mais c'était pendant qu'il y avait le début d'une guerre, hein,
oui.
Le Covid,
c'est
tout
vrai.
Ça.
Alors, c'est vrai que la guerre en Ukraine l'a bien aidé, effectivement. Puisque quand vous êtes déjà président, quand vous êtes déjà en poste, en général, ça aide.
Vous endossez l'uniforme et tout le monde dit, mais il est remarquable ce type.
Oui, tout à fait. Et puis on dit, non, mais l'important, c'est la stabilité. Voilà, on va pas changer de tête d'État quand même à ce moment-là, alors qu'il y a une guerre à 3000 km. Bon.
Aux États-Unis, ils changent d'État, de chef d'État pendant les guerres. Hein,
oui, oui, oui. C'est...
Enfin, c'est tous les 4 ans, il n'y a pas.
Oui, enfin, George Bush a été plutôt aidé par ces guerres, mais
ouais.
Après, je sais pas s'il n'aurait pas été élu sans les guerres non plus, hein, j'en sais rien du tout. Mais enfin, bref. Il y a une autre possibilité aussi que j'ai vu passer, honnêtement, j'y crois assez peu, mais ce serait pas complètement idiot, ce serait une dissolution, mais juste après avoir instauré une proportionnelle. Pour ces nouvelles élections. Alors vous n'êtes pas du tout un fan de la proportionnelle. Je vais essayer de ne pas du tout vous convaincre de le devenir. Mais en gros, les raisons, ça pourrait être ceci. Déjà, ça pourrait sauver les meubles pour ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont donnés actuellement dans les sondages sur des potentielles élections, ils sont donnés à 14%. Donc c'est pas beaucoup. Ça leur empêcherait d'accéder à beaucoup de second tour partout dans les 577 circonscriptions. Donc derrière, ça pourrait être, ils pourraient être absolument décimés. Donc s'ils sont en proportionnel, au moins ils peuvent avoir 14% des sièges, en tout cas si on est en proportionnel intégral. Donc ça pourrait les aider un peu. Ça pourrait sauver le PS aussi d'une alliance avec la France Insoumise, parce que peut-être que ils le font à chaque fois, mais je sais pas s'ils aiment fondamentalement s'allier avec eux. Ça leur permettrait aussi de sauver la plupart de leurs sièges. Et puis ensuite, ça empêcherait la possibilité d'une majorité absolue, voire peut-être même relative, du RN. C'est-à-dire que s'ils sont donnés à 35%, bon, on sait que au moins ils feront pas plus de 40% de l'Assemblée s'il n'y a pas de proportionnel avec une primo gagnant. Ça leur empêcherait d'être aussi fort que ce qui avait été anticipé pendant l'entre-deux-tours des dernières législatives.
Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut pérenniser la situation de blocage actuelle.
Voilà. En fait, le grand paradoxe, ce serait que la proportionnelle, dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, serait en fait finalement la meilleure façon de conserver une assemblée aussi proche que possible de ce qu'elle est aujourd'hui. Du coup, en fait, de rester dans une forme d'instabilité et de... Voilà. Donc finalement, ça ne changerait encore pas grand-chose.
Voilà. La proportionnelle, ça a toujours été un désastre. Dans tous les pays du monde, ça rend les pays ingouvernables et ça donne surtout une chambre qui est complètement manipulée par les partis les plus extrêmes, de droite ou de gauche, qui dans le fond, pour arriver à une majorité, sont nécessaires. On le voit en Israël tous les jours. C'est les types qui sont le plus à droite, qui réussissent, qui sont avec Netanyahou et qui font la majorité de Netanyahou parce qu'ils arrivent avec 2 députés ou 3 députés. Donc vous avez 2 ou 3% du corps électoral qui fait 50% des décisions parce qu'ils sont nécessaires à ce qu'on arrive à 51%. Il n'y a rien de pire que la proportionnelle.
Ouais. Les seuls systèmes proportionnels qui marchent à peu près, c'est ceux que j'arrive pas à expliquer. Par exemple, je n'ai toujours pas compris fondamentalement comment fonctionnait le système électoral italien.
C'est à deux trucs. Ils votent deux fois. Ils votent une fois pour... Puis une autre fois, il y a une espèce de cliquet qui fait que vous pouvez... c'est compliqué le système italien, mais enfin, ça a l'air de marcher. Ils ont amené quelqu'un d'intelligent. Moi, la vraie question que j'ai, c'est... Vous regardez notre corps politique depuis 40 ans, 50 ans, ce qui est mon cas, et vous êtes stupéfait de la baisse de qualité de ce corps politique au travers du temps.
C'est clair.
Donc la façon dont on a de sélectionner nos élites aujourd'hui est complètement nulle.
Ouais.
Et en prenant la proportionnelle, on la pérennise.
Oui, c'est vrai.
On empêche l'émergence de forces nouvelles. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est, pour que ça reprenne, c'est arrêter les subventions en fonction du monde de vote.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que si vous voulez faire une campagne, c'est vous qui payez, quoi, c'est pas l'État. Enfin, les riches arriveraient au pouvoir.
Ouais. C'est vrai que ça permet à des vieux partis politiques qui n'ont pas vraiment de...
Tout le pognon va au président du parti, et ensuite c'est lui qui choisit les mecs. Mm. Et je sais très bien qu'un type comme Chirac, il choisissait toujours les plus nuls.
Ouais, ouais, c'est...
C'était parce qu'il voulait pas. Il ne voulait pas avoir de concurrent. Donc, lui, comme il voulait arriver au pouvoir, lui, et il n'y avait personne ne doutait que c'était le chef du RPR.
Ouais.
Mais dès qu'il y avait un type brillant qui montait, tac, il avait pas, il, c'était pas lui qui était choisi pour les...
C'est vrai que ça empêche un peu l'émergence de forces nouvelles, et on en a...
Donc la seule
besoin.
Solution, on revient toujours à la même chose, c'est le référendum d'initiative populaire,
ouais.
Et que ce ne soient pas les politiques qui prennent la décision. Quoi,
c'est oui, c'est vrai que ma conclusion, c'est que finalement, on a évoqué plusieurs scénarios.
Mais le seul de référendum, c'est marrant, référendum, personne n'en parle. Référendum oui. Constitutionnel pour donner, par exemple... S'il y a quelqu'un qui veut mettre un référendum sur l'immigration, là, qui a commencé à. Ouais. Hein, qui a lancé vous savez, un gallop, un survey, hein, comment on appelle ça.
Oui, une pétition.
Une pétition, oui. Oui je sais qu'il y en avait qui a lancé ça. Mais moi, en plus, si vous voulez. Bon, je suis pas. Le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est. Vous avez, pour des raisons X, Y, Z, à peu près 15 ou 20% de l'immigration qui se conduit pas bien. Eh ben, c'est pas la première fois dans l'histoire que ça se passe. Et autrefois, la gendarmerie ou la maréchaussée faisaient le nécessaire, quoi. Mmh. C'était, mais ce qui est, donc, le problème, c'est pas qu'on ait des troubles à Marseille ou je sais pas où. Le problème, c'est que la police n'y soit pas. Et n'agisse pas et ne réagisse pas. Donc, pour moi, tous ces problèmes de sécurité, c'est pour essayer de faire monter en France cette haine de l'étranger qui est jamais particulièrement intéressante. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire que vous pensez que c'est fait exprès ?
Je crois que c'est fait exprès pour continuer à diviser la population française. Et ça permet à une partie de la gauche d'exclure toute une partie de la droite. En disant, regardez, ils ne veulent pas des étrangers. Mmh. Les Patrick Cohen de ce monde, quoi.
Ouais.
Donc oui, moi je crois que tout ça, c'est fait très volontairement. C'est pour... empêcher le camp des pères de famille, si j'ose dire, allez, de se trouver un champion et d'être élu. Quoi.
Ouais. Parce que quand même, on retrouve dans la plupart des pays occidentaux, quand on a des immigrations similaires, on retrouve un peu partout que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Les mêmes effets, oui, mais que... là, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que vous allez en... Bon, la France, c'est le pays qui a... La plus grosse immigration arménienne du monde, quoi. Mmh. La plus grosse immigration italienne, la plus grosse immigration vietnamienne, la plus grosse immigration chinoise, la plus grosse immigration juive et la plus grosse immigration musulmane. Donc, le problème, c'est pas l'immigration. Ce que disait Jacques Ellul, qui était un homme pour lequel j'avais le plus grand estime. Il disait, il était un homme de gauche, protestant, professeur à Sciences Po, un homme tout à fait éminent, qui a écrit des livres tout à fait remarquables. Et lui, il disait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il disait, moi je suis pour toutes les immigrations, sauf l'immigration musulmane, parce qu'elle est fondée sur la violence. Mmh. La civilisation musulmane est fondée sur la violence, donc ça c'est pas acceptable. Et on retrouve un homme comme Karl Popper aussi, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup lu, qui était un homme aussi... sur la société ouverte. Soros en parle tout le temps, mais il n'a rien compris. Et il disait que le vrai problème de la société ouverte, c'est qu'il fallait être totalement intransigeant avec les intransigeants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, il disait, s'il y a des gens qui n'acceptent pas les fondements de la civilisation dans laquelle ils rentrent, il ne faut pas les accepter, il faut les virer.
Ouais.
Et c'est ce qu'avait fait Locke aussi, au XVIIe siècle. Lui, il avait écrit, donc, ce qu'il y a permis le libéralisme pendant 3 siècles ou 4 siècles. Et Locke disait quelque chose de très intéressant. Il excluait de ce corps national les catholiques, parce qu'ils obéissaient à un type qui était à l'extérieur du pays. Mmh. Donc, on voit que ces gens qui ont beaucoup réfléchi sur la tolérance sont arrivés à la conclusion qu'une société fondée sur la tolérance ne peut fonctionner que si on est totalement intolérant avec les intolérants.
Mmh. Oui. Oui, c'est le paradoxe de la tolérance. Oui.
C'est le paradoxe de la tolérance. Mmh. Et ben, c'est à ça auquel on arrive. Je suis bien persuadé qu'il y a 80% des musulmans qui sont tolérants. Peut-être pas, mais comme ça, parce qu'ils sont des braves gens. Mais s'il y en a 20% qui sont intolérants.
Oui, ça reste énorme.
Reste énorme. Il faut les envoyer peut-être, je sais pas où, un Gaza, tiens.
Je sais pas s'ils ont envie d'y aller.
Ah ben, pour défendre.
Surtout que derrière, ils vont devoir se retrouver à un autre endroit parce que bon, c'est pas quand même.
Pour défendre l'Oumma, on sait pas ce qu'ils pourraient faire. Non, mais je blague là, mais. Enfin, c'est pas très drôle d'ailleurs, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que nos sociétés sont arrivées à un état de décomposition tel qu'on n'est plus capable de dire les choses qu'on ne peut pas accepter. Mmh. Si vous dites les choses que vous n'êtes pas prêt à accepter, vous êtes intolérant.
Oui. Et puis, il y a quelque chose, en fait, sur... le discours de gauche consiste d'abord à nier un phénomène. Le premier phénomène qui est nié dans l'histoire de l'immigration, c'est le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes cultes que nous, et que donc cela va modifier, en fait, la nature, l'ADN un peu de cette société. Cette première chose a été niée. Aujourd'hui, on n'en est plus tellement à nier ce fait-là, mais on en est finalement à dire, bah, maintenant, ces autres cultures font partie quelque part de la culture française, et donc la culture française, c'est aussi défendre ces cultures-là, et donc on ne peut plus les mettre dehors, puisqu'en fait, ils font partie de cet ensemble qui a été modifié par le fait que, voilà.
Et toutes les sociétés multiculturelles dans le monde, dans l'histoire, se sont toujours terminées par des guerres civiles.
Oui, mais là, aujourd'hui, je constate, en tout cas, du point de vue des réseaux sociaux, parce que c'est un peu comme ça que je m'informe pour ce qui se passe à l'international. Je peux pas me rendre à Londres ou à Dublin ou à Milan ou je ne sais où comme je veux. Mais ce que je vois, c'est en Europe occidentale et aux États-Unis aussi, mais beaucoup en Europe occidentale en ce moment, un discours anti-immigration, mais d'une intensité comme je ne l'ai jamais vu. Et comme beaucoup de gens qui sont beaucoup plus vieux que moi ne l'ont jamais vu non plus. Il y a vraiment un ras-le-bol, là, en Grande-Bretagne, c'est assez important.
Oui, parce que maintenant, en Grande-Bretagne, il y a un phénomène, je suis la Grande-Bretagne, j'ai habité 25 ans, il y a un phénomène auquel je ne m'attendais pas, c'est que les tribunaux, il commence à y avoir deux lois. Une pour les immigrés et une pour les Anglais. Et les Anglais, ils partent en prison, les immigrés, ils partent avec des subventions. Alors, ça finit par agacer les Anglais qui sont sensibles quelque part à une certaine égalité devant la justice. Ben non, ben non, pas du tout.
C'est-à-dire que d'un côté, si vous êtes pakistanais ou je ne sais quoi, vous pouvez ne pas forcément avoir de problème après avoir violé des jeunes adolescentes en réunion. En revanche, si vous êtes un Anglais natif et que vous avez critiqué le gouvernement, là, sur Facebook, là, c'est un peu compliqué.
C'est très embêtant. Et je vois ça partout. Et c'est très curieux parce que, par exemple, les Anglais se baladent maintenant un peu partout sur leur voiture avec des drapeaux, avec la croix de Saint-Georges. Là, bon, c'est le drapeau anglais.
Drapeau d'Angleterre.
Le drapeau, pas d'Angleterre, le drapeau anglais. Je veux dire, de la partie anglaise du royaume.
Oui, oui, bien sûr. Anglais, pas du Royaume-Uni.
Pas du Royaume-Uni. Donc, ils ont ça, ils se baladent partout avec. Et qu'on les arrête, mais si vous vous baladez avec un drapeau palestinien, personne ne vous arrête.
Non.
Donc on arrive à une espèce d'inversion des valeurs où un type qui se balade avec un drapeau français, on l'envoie en prison, et un type qui se balade avec un drapeau palestinien, on le décore de la Légion d'honneur. C'est-à-dire, c'est extraordinaire cette espèce d'inversion de façon de penser. On a l'impression que ça a commencé à gauche il y a une trentaine d'années avec le mouvement woke et tout, où tout ce qu'on considérait comme normal dans le passé est devenu condamnable, et tout ce qui était considéré comme anormal est devenu... il y a une protection des gens que dans le passé on aurait considéré comme un peu bizarre, qui s'est accrue de façon considérable, et une attaque contre les gens normaux qui est devenue aussi constante. Je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce d'inversion, et pourquoi.
Bah, je pense que, en tout cas, la manière, je trouve c'est assez pertinent, la manière dont explique ce phénomène Philippe Fabry, c'est le fait que la société, finalement, a été faite par une certaine population à laquelle nous appartenons. Et ensuite, il y a des millions de personnes qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas forcément d'accord de leur point de vue avec la façon dont la société a été faite. Et il y a deux choses différentes. Il y a une société qui évolue en gardant le même peuple, puisque évidemment ça arrive. La France, bien sûr, a évolué en plusieurs siècles.
Sur les homosexuels, on a évolué beaucoup, oui.
Voilà. Et finalement, il y a une sorte de contrat qui, du point de vue des immigrés ou des descendants d'immigrés, n'est pas juste de leur point de vue, puisque eux participent à une société dont ils n'ont pas validé eux-mêmes les fondements. Et donc, quelque part, il faudrait revoir les fondements de la société pour que on se mette d'accord.
Mais ils sont partis de leur société parce que les fondements qu'ils avaient empêcher la société de fonctionner. Oui. Donc ils veulent nous coller chez nous des fondements qui vont aussi s'écrouler.
Oui, mais c'est
quand même, c'est pour ça que je vous dis que vous regardez l'immigration chinoise, personne n'est en train d'en parler. Au bout d'une génération, ils sont tous à Polytechnique. Enfin, j'exagère, mais ouais. Et donc vous retrouvez partout et toujours le truc que disait encore une fois Jacques Ellul. Il avait fait trois jours de débat à Bordeaux. C'était dans les années 80, je crois. Faudrait que je retrouve. Avec le recteur de la mosquée de la Mecque, de la mosquée du Caire, oui, Al-Azhar, je sais plus quoi, et pour savoir si la religion musulmane était compatible avec la démocratie. Et ils étaient arrivés tous les deux à la conclusion en rendant leurs résultats, tous les deux étaient d'accord que la religion musulmane n'est pas compatible avec la démocratie. Alors, le confucianisme est compatible avec la démocratie, enfin il y a des tas de choses qui sont compatibles avec la démocratie, mais apparemment la religion musulmane ne l'est pas. Si la religion musulmane ne l'est pas, ben, il faut peut-être faire ce que recommandait justement Jacques Ellul, c'est-à-dire de dire, ben, il y a des émigrés qu'on accepte, je ne sais pas, les Philippins, et puis des émigrés qu'on n'accepte pas.
Ouais.
Je ne sais pas, mais j'ai entendu un jour Juppé, qui est quand même l'énorme roi des cons, qui a foutu en l'air la médecine française avec ses quotas et tout. Et Juppé a tenu un discours pour dire, écoutez, si la religion musulmane n'est pas compatible avec la démocratie, ce qu'il y a devant nous, c'est un désastre. Donc on ne peut pas discuter cette...
Oui, donc on ne peut pas arriver à la conclusion que ce n'est pas compatible avec la démocratie.
On ne peut pas.
Parce qu'autrement, ce serait un désastre.
Qui est refusé dès le départ.
Oui. En fait, on ne peut pas concevoir qu'on se soit trompé.
Voilà.
Donc, si on s'est trompé, c'est qu'on ne s'est pas trompé et que simplement, c'est le constat qui est mauvais.
Voilà. Mais la vraie question de nos démocraties aujourd'hui, quand on voit le monde musulman, c'est de dire, est-ce que c'est compatible avec la démocratie ?
Non, mais on voit bien qu'il y a un manque de miscibilité de ces cultures-là. Et d'ailleurs, il ne s'agit même pas d'ailleurs de se haïr ou quoi que ce soit. C'est simplement dire que nous sommes juste trop différents, visiblement, par la théorie et par l'expérience, puisque voilà, on peut bien sûr bien s'entendre, et je le fais moi-même, et je connais, voilà, de manière individuelle, il n'y a aucun souci. J'ai, à titre personnel, je crois que j'ai jamais eu de problème personnel avec un musulman, voilà. Mais je constate que les sociétés européennes n'arrivent pas à cohabiter avec les sociétés arabo-musulmanes, tout simplement. Voilà.
Donc, c'est ça la vraie question, c'est la question qui pose, c'est la question auxquelles on ne veut pas répondre. Dans les élections, qu'on ne veut pas poser dans les référendums, c'est la question essentielle. C'est, par exemple, si on me pose une question sur l'immigration, je suis favorable à l'immigration. Mais, comme le dit Jacques Ellul, l'immigration musulmane, c'est pas la même immigration. Mmh. C'est pas. Donc, quand on me dit que je refuse l'immigration, je dis c'est pas vrai du tout. Mmh.
Et puis il y a aussi une conception qui pour le coup est assez française de l'immigration, c'est-à-dire qu'on peut considérer que on peut avoir besoin de l'immigration dans certaines industries ou j'en sais rien. Et donc voilà, on peut faire venir je sais pas des Vietnamiens ou des Philippins pour travailler dans tel ou tel domaine. Et d'ailleurs, c'était un peu la conception qu'on avait au départ de l'immigration dans les années 50-60, c'est-à-dire on a des types qui viennent, ils travaillent quelques années, ils sont contents parce que ils travaillent avec un plus haut niveau de salaire que ce qu'ils auraient dans leur pays d'origine. Et puis ils envoient du fric à la maison, et puis après 4-5 ans ou même pas, ils reviennent.
C'est ce qui se passe pour la France. Maintenant, vous avez des tas de cadres français qui se passent, parce qu'aujourd'hui, vous avez 70% des promotions d'HEC ou de Polytechnique qui se barrent. Mmh. Donc ils vont travailler à l'étranger, ils font du fric pendant 10 ou 15 ans, ils s'achètent une maison, ouais. ils envoient du pognon à leur papa et maman. Donc on répète le schéma philippin. La ouais. France est un des pays qui a le plus de rentrées de fric des gens qui travaillent à l'extérieur. C'est rigolo, quand même.
Ouais, ouais. Effectivement, il y a plein de Français qui viennent travailler au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, enfin, ouais, surtout à Hong Kong d'ailleurs.
Partout, il y en a partout des Gaulois. Enfin, donc, les échanges de peuples et d'expériences comme ça, c'est très intéressant. Vous allez à Hong Kong, c'est la ville du monde où il y a le plus de restaurants, et vous avez des restaurants italiens, des restaurants français, des restaurants chinois, des restaurants californiens, il y a tout, c'est très sympa. Mais quand vous êtes à Hong Kong, vous remarquez quand même que c'est une ville chinoise. Il n'y a pas à chiquer.
Ouais.
C'est chinois. Mmh. Donc c'est quelque chose d'accueillir les autres temporairement, c'est une autre chose d'être modifié par les autres.
Ouais.
Les Chinois peuvent faire ce que vous voulez. vous les modifiez pas.
Ouais. Ouais.
Les
Japonais sont aussi assez réticents à ce truc-là. Et d'ailleurs, le premier ministre japonais a annoncé qu'ils allaient recourir davantage à l'immigration. En quelques jours, il y a déjà pas mal de protestations. Hein.
Il a démissionné.
Ouais.
Il y a un nouveau premier ministre qui arrive.
Ouais, c'est assez hallucinant.
Le Japon, c'est. T'es pas noté pareil. Hein.
c'est vraiment un peuple à part.
C'est vraiment un peuple à part. Moi, j'ai de la famille au Japon. T'es pas noté pareil.
Ouais.
Les Chinois, ils sont compréhensibles.
Pays assez fascinant, hein, le Japon.
Oui, on sait pas, ils sont arrivés de Mars il y a à peu près 3000 ou 4000 ans, mais on sait pas d'où ils viennent, mais ils sont pas comme tout le monde. Ils sont pas comme tout le monde.
Peut-être d'une autre planète, ouais. Enfin bon. Les échéances à suivre. Derrière, nous avons pas seulement voilà, des échéances.
Voilà, qui va essayer de nous nommer le président, là, qui va nous coller.
Ça, je sais pas, hein. J'en sais rien. Mais déjà, ce qu'on a, c'est demain, au moment où on tourne cette émission, on a le 10 septembre, alors qui ressemble plutôt finalement à un pétard mouillé qu'à autre chose, parce que le 10 septembre, certains mouvements en parlent depuis 2 mois, depuis le début de l'été, en fait, finalement. C'était au début un mouvement qui était issu plutôt de la sociologie gilet jaune. Donc plutôt la France qui travaille, qui peut-être on a un peu ras la casquette de payer plein de trucs pour tout le monde et qui sait pas forcément où est le retour sur investissement derrière. Et puis ça s'est transformé très rapidement en fait en espèce de repère à gauchiste, c'est-à-dire que les partis politiques, notamment la France Insoumise et le NPA, ont récupéré le mouvement. Et
donc, c'est quoi la NPA ?
Nouveau parti anticapitaliste. Je crois que c'est le truc de Poutou ou Nathalie Arthaud, je sais plus. Enfin bref. C'est ils sont plus à gauche que le Parti communiste.
C'est pas difficile. Le Parti communiste n'a jamais été un problème dans l'histoire. Il était toujours prêt à signer les accords. Et en général, il les respectait. Mais NPA, nouveau parti anticapitaliste, mais c'est absolument. Attendez, ils ont été fondés en 1840 avec Marx.
Parce que
un nouveau parti anticapitaliste.
Il se revendique littéralement marxiste-léniniste. Oui, bien sûr. Ils font 1% aux élections. Tout le monde s'en fiche.
Qu'est-ce qu'ils font ?
Bref, c'est
100 millions de morts, c'est bien.
Peut-être que eux d'ailleurs.
J'ai vu qu'il y avait 2 maires en France qui mettaient des stèles pour les martyrs martyrisés par les communistes. Il y en avait un à Beaumont et l'autre dans le Midi. Là.
Ouais.
Je trouve ça une très bonne idée, ça, parce que de mettre dire.
Tout à fait.
Il y a 100 millions de morts qui ont été tués avec le soutien de tout le quartier latin. Ça rappelle un peu les gens un peu de modestie.
Ouais, tout à fait. Et rappeler aux communistes que ces crimes ont eu lieu, parce qu'il y a deux types de communistes. Il y a ceux qui les nient et ceux qui les revendiquent, et souvent c'est les mêmes.
Alors, encore une fois, il peut y avoir deux idées qu'on peut.
C'est pareil que les Turcs avec le génocide arménien d'ailleurs. Il n'a pas eu lieu, mais c'était bien mérité.
Mais moi, je connais un peu l'histoire du génocide arménien, parce que mon grand-père était à la frontière entre la Turquie et la Syrie à l'époque. Et donc les pauvres familles arméniennes se barraient à pied. Elles emmenaient leurs pauvres petits trésors, deux trucs et tout. Et elles arrivaient auprès des villages syriens ou druzes, kurdes, qui étaient entre la Syrie et dans le nord du Liban. Là, voilà. Et c'était les villageois qui venaient qui les tuaient. C'était les villageois locaux qui venaient qui les tuaient.
Ouais.
Et donc on dit que c'est les Turcs. C'est plutôt un petit peu comme en Ukraine, où au départ, ceux qui massacraient les Juifs, c'était pas tellement les Allemands qui n'étaient pas encore arrivés, mais c'était les Ukrainiens, quoi.
Ouais.
Donc, cette histoire de génocide, c'est toujours un peu gênant, parce que on voit bien celui qui l'organise et tout, mais il y a parfois des génocides qui se passent avec votre voisin que vous connaissez depuis que vous avez 2 ans, ouais. Quoi, avec qui vous avez joué au foot et tout. Donc,
ouais, bien sûr.
C'est compliqué, ces histoires-là.
Ouais, en Afrique aussi, on a des génocides à la machette. Enfin,
vous avez les Hutus, les Tutsis, ouais. Je sais pas quoi.
3 millions en quelques mois, c'était assez. Bon, enfin, bref. Donc voilà, le 10 septembre, finalement, on s'attend pas à grand chose. Donc, mouvement de grève, etc. Mais, enfin,
vous êtes obligé de venir travailler demain.
Oui, mais ça, je m'en fous. De toute façon, moi, je peux venir à pied, donc c'est pas très. Voilà, c'est pas très dérangeant.
Vous êtes un mauvais syndicaliste.
Voilà, exactement. Je pense que je ferai pas bon genre au NPA, effectivement. Mais ce qui m'intéresse un petit peu plus, et ça va donner lieu à une discussion intéressante, c'est les agences de notation. Parce que, déjà, pour rappel, Fitch fut la première agence du Big Three à dégrader la note de la France de AA à plus à moins, pardon. Donc c'était le 28 avril 2023. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Donc depuis Fitch,
et la situation s'est pas améliorée.
La situation s'est pas améliorée, elle s'est même plutôt dégradée. Et d'ailleurs depuis, Fitch a donné la même note, mais a donné en supplément une perspective négative la dernière fois qu'elle nous a noté, donc le 14 mars 2025. Donc même note, mais un peu moins bien.
Moi, j'avais un prof comme ça, j'étais il y a longtemps, des versions latines. Il mettait moins 2 en progrès. Je crois que c'est son.
C'est toujours mieux que moins 5.
C'est ça. Moins 2 en progrès. Donc, à mon avis, la note que va avoir la France, c'est moins 2, pas en progrès, mais en détérioration.
Ouais, c'est un peu ça. Ensuite, on a Standard & Poor's qui avait aussi dégradé la note de la France le 31 mai 2024. Donc, c'est plus récent, de AA à AA-, toujours la même note. Donc, lors de son évaluation 2024, elle avait estimé que nous avions une perspective stable, avant de découvrir que notre déficit, en fait, sur l'année dépassait les 6%. On ne savait pas encore à ce moment-là, donc peut-être que depuis, ils ont un peu évolué sur la question. Moody's avait dégradé la note de la France en décembre 2024, donc là, c'était il y a moins d'un an, passant de AA2 à AA3, donc c'est l'équivalent du AA-. Et n'a pas changé sa note en avril dernier, lorsque...
Mais ils ont dit qu'ils n'émettaient plus de notes.
Ouais, effectivement, on n'a pas eu de notes à ce moment-là.
Moody's a dit, vous savez, quand Maxime, qui était un 3 étoiles, hein, pendant quand j'étais jeune, a eu des ennuis et tout, et les guides Michelin ont envoyé des gars, et ils se sont mis d'accord avec la direction de Maxime à l'époque, qu'ils ne mettraient plus de notes. Ouais. Ils n'enlèveraient pas les 3 étoiles, mais ils ne mettraient plus de notes. Ils n'iraient plus voir Maxime. Donc c'est un peu ce qu'avait fait Moody's. Ouais. Côté de, oui, la France, oui, où c'est, et puis non, mais pas de notes, ça nous emmerde.
Ouais. Et du coup, pour ces agences, voici leurs échéances prochaines. Alors Fitch, c'est très proche, puisque c'est le 12 septembre, donc ce vendredi. Moody's, c'est le 24 octobre, donc dans pas très longtemps non plus. Et Standard & Poor's, ça va être le 28 novembre. Donc voilà, on va suivre cela. Alors pourquoi c'est intéressant ces histoires de notes? Parce que en fait c'est plus important de passer de AA- à A+ que de AA à AA-, puisque en fait il y a plusieurs institutions financières qui dans leur propre règlement, c'est pas des trucs légaux, mais enfin c'est dans leur propre règlement, dans les fonds d'investissement, ils disent bah nous on prend que des dettes d'État qui sont AA- ou plus. Et dès que vous descendez en dessous de AA-, bah vous êtes plus éligible à cette réglementation tout simplement. Donc ils vont être obligés de vendre, ces institutions seront obligées de vendre de la dette française et ne pourront pas en racheter par rapport tout simplement à leur propre réglementation. Donc c'est pour ça que c'est assez important. Cependant, je voudrais noter un truc parce que j'ai vu ce matin même un post très intéressant de quelqu'un que nous estimons, qui s'appelle Alexandre Lohmann, qui nous a fait d'ailleurs un super dossier sur l'institut, sur l'université de l'épargne, sur les obligations brésiliennes, que je vous invite à consulter si vous êtes client de l'université de l'épargne. Et il a montré une infographie montrant en fait l'état des taux d'intérêt des différents pays de la zone euro, plus la République tchèque et le Danemark, en fonction de leur notation par ces grandes agences. Donc on voit évidemment que plus la notation est basse, plus les taux sont élevés, mais la France est au-dessus déjà de cette ligne de tendance, c'est-à-dire que finalement le marché semble pricer déjà, c'est-à-dire prendre déjà en considération le fait que la France a finalement une dette dont la notation devrait être quelque part entre A et BBB-.
Moi tout ça c'est très joli, mais c'est ce que j'appelle des instantanés. L'instantané m'intéresse assez peu. Mmh. Ce qu'on voit, c'est la détérioration de la France qui se termine en faillite.
Ouais.
Donc mettre une note sur quelqu'un dont vous savez qu'elle va faire faillite, c'est déjà idiot.
Ouais.
Si vous développez un tableur Excel, vous ne pouvez pas trouver une solution où la France reste dans l'euro et peut s'en sortir économiquement. Donc, ouais. J'aime bien ces histoires de notation, parce que... Mais en réalité, aujourd'hui, le gars qui achète une dette française, je sais pas, la Banque Centrale de Singapour, n'importe quoi, il va gagner quoi, 30, 40, 50 points de base de plus peut-être que le Danemark ou la Hollande, Netherlands, là, mais ça ne court absolument pas le risque. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire aux gens, ouais, c'est que pour la première fois de ma carrière, j'ai dit il y a un risque de rupture, ouais, historique, et vous ne pouvez pas vous assurer contre.
Ouais.
Donc, ce n'est pas la peine de prendre une position dedans, parce que vous ne pouvez absolument pas mesurer le risque de la gamelle que vous allez prendre. Et ça me fait vraiment penser au gars à Constantinople là, qui discutait sur les sexes des anges, savoir si la France est B+, ou A, ouais, ou j'en sais rien. Je m'en tape complètement. Ce que je sais, c'est que si elle continue sur la trajectoire sur laquelle elle est depuis 30 ans, la sortie est... Quand est-ce que... Donc, la France, c'est pas... C'est F. Vous y mettez pas les pieds.
Ouais.
Et je suis sûr qu'il y a des tas de vieux géants qui résonnent comme moi, en disant je n'ai rien à foutre de ce qu'ils disent tous les secondes. D'ailleurs, quand la crise de 2008-2009 est arrivée, ils n'avaient rien vu venir et ils se sont mis dans une panade noire.
Ouais,
donc, ces trucs-là, c'est pour juger des choses qui vont rester dans l'état normal.
Oui.
Mais je ne suis pas sûr qu'on sera dans une période où les états normaux vont se maintenir.
Ouais.
Moi, je ne crois pas du tout à ces trucs-là.
Ouais.
Je me dis, ce n'est pas possible...
De toute façon, on sait que les agences de notation sont très gentilles avec les grandes économies.
Les grands états, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il les paye un maximum. C'est un petit peu l'agence de notation, c'est un petit peu comme si le restaurant payait le critique gastronomique.
Ouais.
En principe, c'est le client qui paye,
oui,
le critique.
Normalement, on appelle ça un conflit d'intérêts.
Un léger conflit d'intérêts. Ouais, donc, si vous avez les deux tiers de votre fortune qui viennent de votre truc qui viennent de l'État français,
oui, c'est sûr.
Vous serez gentil avec l'État français. Donc, tout ça, c'est le résultat de paresse.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est quand j'étais jeune, il y avait eu un truc qui s'appelait, qui avait fait faillite à Philadelphie, qui était une énorme société de services publics, d'ailleurs, qui avait fait sauter. Et puis, il y avait un gars qui était dans un fonds de pension, je ne sais pas où, qui avait vendu, dans les semaines qui précédaient, toutes les obligations de ce fonds, de cette société. Alors on a dit, il a eu des inside information. Donc il a été poursuivi en disant, vous avez vendu avant, pourquoi, etc. Il a dit, vous savez, moi je ne suis pas plus bête qu'un autre, mais l'écart des taux entre la société que j'ai vendue et les autres sociétés similaires ne cessait de monter.
Ouais.
Donc je me suis dit, il a des problèmes de trésorerie, je vends. Mais faites ça entre la France et le Danemark, la France et et vous verrez que c'est... Les écarts des taux ne cessent de monter, donc. Mmh,
tout à fait.
Quoi que passe, on s'en fout de tous ces trucs-là. C'est des, c'est là, des trucs, vous savez, il y a la finance réelle et puis il y a la finance réglementaire.
Ouais, bien
ça,
sûr.
Ça, c'est la finance réglementaire, mais c'est la meilleure façon de perdre du pognon.
Justement, la finance réelle, elle, ne prend pas tellement en compte les informations de la finance réglementaire.
Elle a déjà dégradé la France.
Voilà, la France a déjà été dégradée dans le marché. Et pas que à plus, mais elle est déjà au même niveau que l'Italie, à peu près.
Et pourtant, l'Italie va mieux, parce qu'ils ont des excédents dans des comptes courants et un excédent primaire aussi dans leur budget.
C'est sûr, ils sont sur une meilleure trajectoire.
Il n'y a pas de doute. Donc, si vous voulez, plus je vieillis, Dieu sait que ça m'arrive, plus je vieillis, et moins je fais attention aux chiffres officiels, inflation, etc.
Oui.
Et plus j'essaye de regarder les prix de marché.
Les données de marché, oui.
Parce que les prix de marché...
Le marché est plus efficient et plus
et
rationnel.
Et sûr, les gens jouent avec leur fric.
Oui.
Ils sont pas en train de...
Oui, c'est sûr. Standard & Poor's, qu'ils notent à moins, ou j'en sais rien, quelle soit leur note à la fin...
Si les problèmes de fond de la France sont pas traités, un jour, on sera C, c'est-à-dire junk. Comme l'a été l'Argentine, puis voilà, c'est tout quoi. Donc, et ce que ça veut dire que les gens qui utilisent ce genre de notes ont la flemme de regarder eux-mêmes.
Ah oui, bien sûr, non, mais utiliser cette note pour guider ses investissements,
C'est ce
qu'ils
font. Parce que c'est sur ces notes aussi que sont basées les réserves obligatoires que vous devez mettre.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que...
Ça encore, c'est des trucs réglementaires. C'est-à-dire des trucs qui sont... Donc vous avez des fonds qui sont obligés d'avoir 40% d'obligations.
Donc il y a toute une partie de la finance où c'est pas des prix de marché.
Oui, oui, c'est des trucs réglementaires.
C'est des trucs réglementaires. Et dès que je vois ça, moi je me dis ouh.
Vous êtes obligé d'avoir du junk bond. Enfin.
Donc pour conclure sur la France, moi ce que j'essaie de dire, c'est que pour la première fois de ma vie, je me dis il y a une possibilité non négligeable.
Oui.
Non négligeable, qui est vraiment un énorme pet. Et pour la première fois de ma vie, je dis, je rentre dans un trou noir intellectuellement. C'est-à-dire, je dis aux gens, vous ne pouvez pas me demander de faire une analyse en termes logiques d'une politique illogique depuis 30 ans.
Oui.
Quelles sont les conséquences? Mais comment voulez-vous que je le sache, moi? Quelles sont les conséquences d'une idiotie que vous faites depuis 30 ans? Je ne sais pas. Je peux dérouler les conséquences logiques, mais pas de quelque chose d'illogique.
Oui.
C'est bête, hein?
Oui.
Donc, je suis là, je dis, il va se passer quelque chose. Je sais qu'ils vont être les perdants. Et je crois que les gagnants, c'est ceux qui seront là-bas, très loin.
Oui.
Plus vous êtes près du centre, plus vous risquez d'être cramé, quoi.
Oui. C'est clair. Non, c'est sûr, à chaque fois...
On est plus précis, hein?
Oui, bien sûr, c'est impossible de donner une date sur un point de rupture ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, en fait, la France est aussi considérée par beaucoup d'institutions comme un peu too big to fail, donc on a l'impression que même si on va dans le mur, tout va être fait autour de nous pour nous empêcher d'aller dans le mur, mais à un moment donné, peut-être que on va nous obliger à sortir de la zone euro parce que la dette est insoutenable pour cette zone
monétaire. Mais si on sort de la zone euro, on sort de l'Europe. Puisque dans les traités, celui qui sort de la zone euro sort de l'Europe.
Ben, j'espère, en tout cas.
C'est très bien. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les trucs... À ce moment-là, vous avez l'Italie qui dit merci beaucoup, l'Espagne qui dit merci beaucoup. Donc la zone euro se défait en 5 minutes. C'est ce que je dis, c'est que... Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez la France qui est là, mais s'il se passe un énorme pet là, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas des répercussions sur l'Italie, la France, l'Espagne. Oui. Ça va.
On a vu déjà les répercussions énormes qu'avait la dette de la Grèce sur l'euro.
Mais qui était tout petit.
Qui était petite, pas minuscule par rapport au problème de la France.
Une centaine de milliards contre 3300, quoi.
Oui.
Donc la France est trop grosse pour être sauvée par des institutions de sauvetage, quoi.
Oui. Oui, parce que il y a aussi ceux qui parlent du FMI, de l'intervention du FMI. Le truc, c'est que le FMI, moi, je veux bien, j'ai rien contre le FMI, mais est-ce que le FMI a vraiment envie de se mettre là-dedans?
Mais il a quoi? Il peut mettre, je sais pas combien de son capital, quelques centaines de milliards de dollars à tout casser.
Oui, c'est ça.
Mais il a pas assez. Il a peut-être 200 milliards de dollars de capital qui serait là.
Ouais.
Mais là, il en a besoin de 3000, quoi. C'est pas du tout pareil.
Ouais.
Donc la France est beaucoup trop grosse.
Ouais. Donc on est un peu obligé d'aller dans le mur. À ce niveau-là.
À ce niveau-là, ben la seule solution,
c'est peut-être essayer de décélérer juste avant d'arriver dedans, mais...
Non, mais ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, ben, ce qu'on fera, c'est qu'on sortira de l'euro, bon, l'Europe sera foutue, et on mettra un taux de change sous-évalué de 50%, et ben ceux qui continueront à recevoir des subventions de l'État, elles ne vaudront rien, et ceux qui travailleront pour vendre à l'exportation, ils gagneront de l'argent gros comme eux.
Ouais.
Donc on va refavoriser les entrepreneurs au détriment des rentiers.
Bah, ce serait une bonne chose, oui.
Bah, c'est évident, c'est pour ça que je suis très optimiste. Mais ça fait 40 ans qu'on favorise les rentiers au détriment des entrepreneurs. Ça nous a amené là où on est. Mais le rattrapage risque d'être brutal. Mais j'ai aucune idée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans le brouillard le plus total.
Oui, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se matérialiser. On ne sait pas quand ça va se matérialiser.
Parce que ça peut être arrivé aussi avec la BCE, le je sais pas quoi... qui nous met des carcans administratifs, vous n'avez plus le droit de faire ça, c'est-à-dire qu'on perd toute souveraineté budgétaire, etc. C'est-à-dire qu'on devient un peuple...
Tout à fait.
Mais je ne sais pas si la population française est prête à accepter ça, quoi.
Oui, ouais, c'est clair.
D'être mis sous servage par les Allemands,
Je pense que ce qui peut être déterminant, par exemple, c'est tout simplement le chiffrage officiel du déficit en 2025. C'est-à-dire que l'an dernier, ça avait déjà fait pas mal de bruit. On pensait qu'on était en dessous de 5%. Au final, on était à 6,1, quelque chose comme ça, ou 6,2.
Et là, on va être à 7.
Et là, voilà, selon les...
C'est peut-être pour ça qu'il a démissionné, Bayrou.
C'est peut-être
pour ça. Parce qu'il a peut-être vu les vrais chiffres.
Oui, et il a fait sortir une note de service qui disait que si on ne change j'ai pas le budget, on allait être encore une fois au-dessus de 6. Donc finalement, c'est peut-être un peu une manière de dire qu'on n'est toujours pas en dessous de 6, malgré les efforts, entre guillemets, qui ont été faits par le gouvernement, quoi. Donc, c'est...
Donc... Bah oui, donc... Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on est sur cette histoire de l'euro, qui est un Frankenstein financier dont j'ai écrit dès le départ qu'il allait faire sauter l'Europe, que j'aimais, l'Europe de la diversité. Et je crois qu'on y arrive. Attachez vos ceintures, ou alors allez vous baigner là-bas très loin.
Oui. Oui.
On en reparlera dans l'Université de l'Épargne.
Oui, on en reparlera. Ben, on aura bien sûr l'occasion de le commenter, de le recommander.
Mais ce qui est certain, c'est que les portefeuilles qu'on a recommandés ne seraient pas tellement impactés par ça.
Non. Justement, sur cette année, alors déjà, on a une performance correcte. Et puis, en plus de ça, on a une performance qui a été impactée très négativement par une hausse de l'euro qu'on n'avait pas vu venir.
Dans ce cas-là, n'aurait plus lieu.
Oui, dans ces cas-là, serait loin d'avoir lieu. Et à ce moment-là, on aurait des meilleurs pourcentages que les Américains et le reste du monde dans notre monnaie locale, puisque, voilà, forcément. Enfin, bref. J'ai envie de dire, tout ce qu'on dit, on l'a déjà diagnostiqué auparavant. On a déjà dit qu'on allait dans le mur, on ne sait pas quand. J'ai envie de dire, c'est l'expression que vous sortez souvent, vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Donc on espère que ça arrivera le plus vite possible, même si ce sera forcément un moment difficile à passer. Mais au moins derrière, on pourra reprendre sur quelques bases saines. Et je pense que c'est de ça qu'on a surtout besoin, et pas tellement ni d'un nouveau Premier ministre, ni peut-être même de nouvelles élections. Finalement, il vaut mieux peut-être un choc exogène que quelque chose qui vient de l'intérieur, vu les conditions qui nous sont proposées à l'heure actuelle. Voilà pour la France. Merci beaucoup. Ça peut paraître pessimiste, mais finalement, la finalité de toute cette histoire est finalement assez optimiste, puisque on a peut-être besoin de ça finalement pour se remettre sur des bons rails. Et on a quand même, encore une fois, je me répète, mais on a un pays formidable et il serait temps de le remettre justement sur les bons rails. Je vous remercie bien sûr pour votre fidélité puis pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et aussi pour ceux qui nous suivent là-dessus sur l'Université de l'Épargne. Merci beaucoup.
Merci mille fois.